Bonjour à tous, c'est Rose. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un podcast qui m'a fait du bien à la tête et au corps. Adieu complexe de Malika Ménard nous plonge dans les pensées contradictoires de l'être humain qui voudrait cheminer vers l'acceptation mais qui se perd dans le doute, le jugement, le sabotage et la détestation de lui-même trop souvent. Malika reçoit des personnalités fortes qui, comme elle, ont réussi à sortir de ce mode de fonctionnement qui est la cause de la majorité de nos comportements destructeurs. On se juge, on se déteste, on s'anesthésie, on se punit, alors on culpabilise. Et c'est le retour au jugement. Ce cercle vicieux, on le connaît bien nous ici, dans Contradiction. Et Malika le décortique avec simplicité et intelligence avec ses invités.
Tu dis aussi que très tôt, tu as eu la sensation que parce que tu étais grosse, il fallait que tu développes d'autres qualités.
Ah oui. Bien sûr.
Être la plus intelligente, la plus drôle.
Bien sûr.
C'est réussi, hein. Je rigole bien. Depuis tout à l'heure, on peut dire que je rigole bien. Donc
J'adore. Ouais, clairement, bah, quand t'es grosse, tu sais faire mille trucs. J'ai fait de la natation à haut niveau, je sais faire du tennis, j'ai lu un nombre incalculable de livres, j'ai voyagé. En fait, quand t'es grosse, t'as intérêt à avoir un bagage comme as. Tu compenses.
Je vous laisse découvrir le tout premier épisode du podcast Adieu complexe de Malika Ménard.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Il y a des choses qui sont relativement similaires, notamment c'est ce que vous disiez, hein, quand vous disiez l'idée d'une maturation finalement un peu décalée entre différents systèmes dans le cerveau humain, et notamment ce système dont on parle beaucoup chez l'adolescent, parce qu'il est très tôt finalement très fonctionnel, c'est le système limbique. Et ce système limbique, bah, c'est le système de recherche de la récompense, de la recherche du plaisir, mais aussi de la réactivité émotionnelle. Et effectivement, c'est un système qui est très impliqué dans les addictions. Certains noyaux de ce système-là vont être effectivement particulièrement impliqués dans les addictions.
Dans le développement humain, la maturité du cerveau est un processus long. Il faut généralement attendre environ 25 ans pour que nos lobes préfrontaux atteignent leur pleine maturité. Les adolescents se retrouvent alors dans une phase plutôt délicate dans laquelle certaines de leurs capacités sont déjà pleinement développées alors que d'autres sont encore en construction. Cette période peut entraîner des difficultés de communication, certes, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, davantage des comportements à risque. Adolescent, mon invité, lui, était un très mauvais élève et rien ne l'intéressait à l'école. Quelques décennies plus tard, il étudie les fonctions cognitives de haut niveau dans le développement cognitif et socio-émotionnel et dans les apprentissages scolaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. Et là, je me dis que mon fils de 12 ans cache vachement bien son jeu pour le moment. Professeur de psychologie du développement, je ne parle pas de mon fils, hein, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, auteur de plus de 70 articles scientifiques, mais également de différents livres de pédagogie. Il explore dans son dernier ouvrage « C'est pas moi, c'est mon cerveau » les intrications entre le cerveau en développement des enfants et adolescents et l'environnement numérique, mais pas seulement. En parcourant ce livre essentiel, je n'ai pu m'empêcher de penser qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop de similitudes entre les addicts et les ados. Impulsivité, sensibilité à la récompense, prise de risque, intolérance à la frustration, tendance à choisir les gratifications immédiates plutôt que les gains différés, difficulté de gestion des émotions, faible résistance aux automatismes. Les addicts auraient-ils un cerveau d'ado ou les ados seraient-ils des addicts en puissance? Pour répondre à cette question, parmi tant d'autres, nous avons la chance de recevoir le professeur Grégoire Borst. Je vous remercie infiniment, professeur, d'avoir accepté notre invitation, parce qu'il est crucial, il me semble, de sensibiliser nos adolescents au fonctionnement de leur propre cerveau, mais aussi leurs parents et leurs éducateurs. Alors merci et bienvenue dans Contradiction.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que ce que j'ai dit peut vous sembler justifier cette histoire de lien entre l'addict et l'ado?
Il y a des choses qui sont relativement similaires, notamment c'est ce que vous disiez, hein, quand vous disiez l'idée d'une maturation finalement un peu décalée entre différents systèmes dans le cerveau humain, et notamment ce système dont on parle beaucoup chez l'adolescent, parce qu'il est très tôt finalement très fonctionnel, c'est le système limbique. Et ce système limbique, bah, c'est le système de recherche de la récompense, de la recherche du plaisir, mais aussi de la réactivité émotionnelle. Et effectivement, c'est un système qui est très impliqué dans les addictions. Certains noyaux de ce système-là vont être effectivement particulièrement impliqués dans les addictions, et on sait qu'effectivement, l'activité de ce système, quand on le regarde un peu avant justement l'entrée potentiellement dans de la consommation de psychotropes ou d'alcool, on a effectivement un caractère prédictif d'une certaine manière du fonctionnement de ce système qui crée des facteurs de risque de pouvoir rentrer justement dans une consommation excessive. On ne va pas parler tout de suite d'addiction, mais en tout cas dans une consommation excessive, notamment à l'adolescence.
D'accord. Est-ce que vous pourriez me donner votre définition de l'addiction ?
Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'addiction.
C'est pour ça que je la demande. Franchement, c'est une question que je pose à tous mes invités. C'est-à-dire que chacun a sa version. Ça peut être vraiment un mot.
Je pense que celle qui est la plus consensuelle en notre milieu, qui est le milieu de la psychologie et des neurosciences, c'est quand même qu'il faut que... c'est pour ça que je parle peu, et quand on en parle avec des addictologues, c'est difficile de parler d'addiction sur le jeu vidéo, c'est difficile de parler d'addiction sur les écrans, c'est difficile de parler d'addiction sur ces domaines-là. Pas encore, peut-être qu'on y viendra, mais pour moi, l'addiction, elle entraîne fondamentalement des transformations du cerveau avec des modifications de certains récepteurs qui font qu'effectivement, il y a des mécanismes de craving, il y a des mécanismes de retrait social, il y a des mécanismes, il y a un certain nombre, c'est pas simplement un comportement, c'est des multiples comportements qui entraînent effectivement des incidences dans la vie sociale de la personne avec du retrait social et effectivement des mécanismes de manque extrêmement importants. Et donc, pour moi, c'est ce qui définit une addiction. Mmh. Après, je pense que c'est très ouvert comme discussion.
C'est la première fois qu'on évoque le fait qu'il y a une transformation cérébrale. Des chemins neuronaux, je ne sais pas comment
exactement,
on explique ça.
C'est-à-dire que quand on regarde par exemple sur la nicotine, sur l'alcool, sur la cocaïne, vous avez des transformations en fait, des récepteurs ou de certains neurotransmetteurs. Et c'est bien parce qu'il y a des modifications des récepteurs dans le cerveau humain et ou des neurotransmetteurs, ces petites molécules qui vont permettre la conduction du signal entre deux neurones, qu'on a des mécanismes de craving qui se mettent en place avec des phénomènes de manque, parce que sinon en fait il peut y avoir du manque, mais qui sont plutôt dans les addictions comportementales. Mais dans les addictions comportementales, c'est plutôt un peu comme quand on a des espèces de stéréotypies qu'on a un peu tous hein, sur nos téléphones
des
portables, quand tout d'un coup on fait Instagram, Facebook, WhatsApp,
une sorte d'hypnose
du scroller qui effectivement, alors, peut s'apparenter parfois à des mécanismes et à des comportements qu'on peut retrouver chez les addicts, mais qui sont pas en fait tout à fait dirigés de la même manière. C'est plus une espèce de routine comportementale comme on peut en avoir le matin.
On va pas chercher un plaisir.
Tous les matins, on fait.
Ouais,
voilà, exactement. Il n'y a pas forcément un plaisir associé. Tandis que dans l'addiction avec des modifications du cerveau, on a vraiment des mécanismes, effectivement, d'une part, de manque et ensuite de satisfaction du manque avec du plaisir associé.
On avait invité Sébastien Boller dans la saison 1 et en fait, c'est un peu flippant par rapport à tous les autres invités que j'ai. Soudainement, on comprend que tout n'est que chimie et que, c'est limite philosophiquement, c'est d'un déterminisme fou. C'est-à-dire qu'on est là, c'est-à-dire que je suis conditionnée par la chimie de mon cerveau. On va en parler parce que vraiment, honnêtement, c'est passionnant. On va définir aussi ce que c'est que l'adolescence quand même, puisqu'on parle des adolescents.
Bien sûr. L'adolescence, ce qui est intéressant, c'est que je pense que pendant très longtemps, on a considérer que c'était une construction sociale. Parce qu'on disait, regardez, dans l'histoire, il y a eu des moments où il n'y avait pas d'adolescence, puisqu'on était mariés très tôt, et on passait quasiment directement de l'enfance à l'âge adulte. Et il y a encore d'ailleurs des sociétés dans lesquelles on passe très tôt à l'âge adulte, puisqu'on est mariés très tôt, et où il y a effectivement des périodes de transition qui sont même ponctuées par des grands rituels associés. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde d'autres espèces animales, on a exactement les mêmes périodes qui sont observées.
C'est pas vrai.
La période de l'adolescence, elle se retrouve par exemple chez les rongeurs. C'est-à-dire que les rongeurs, si vous regardez...
Alors eux, c'est à trois mois.
Ouais, alors c'est beaucoup plus tôt, c'est en nombre de jours qu'on va compter, parce que justement, leur développement cérébral va être beaucoup plus rapide. Mais ce qui définit réellement l'adolescence, en tout cas, la cause de cette période-là, c'est bien le fait que notre cerveau se développe à différents rythmes dans différentes régions cérébrales ou dans différents systèmes. Et notamment, c'est ce que vous aviez très bien expliqué, c'est-à-dire que c'est le décalage entre un système limbique qui est le siège de notre réactivité émotionnelle, de la recherche de la récompense.
Limbique,
limbique, c'est vraiment celui qui est tout au cœur de notre cerveau.
D'accord.
Il est tout au milieu de notre cerveau quasiment. Et il a vraiment comme fonction de nous permettre de ressentir des émotions. Donc il est absolument critique. Hein. Bah, heureusement, on est des êtres sociaux qui ont besoin de ressentir des émotions.
Donc celui-là est développé, donc il ressent des émotions
celui-là,
très fortes.
Globalement, il fonctionne à peu près comme un système adulte vers au début de l'entrée dans l'adolescence, c'est-à-dire au début de la période de la puberté.
Donc gros, ils ont la faculté de vivre des émotions très fortes, sauf
très
qu'ils n'ont pas le régulateur.
Que nous avons, nous, un régulateur qui dit à un moment, bon, attendez, on se calme un peu, cette situation,
c'est pas si grave.
On l'a déjà vécue 10 fois, on n'a pas besoin, encore une fois, d'exploser en vol dans la même situation. Et bien, c'est ça, en fait, l'adolescence. C'est exactement ce décalage de différents systèmes qui est complètement guidé par l'entrée dans la puberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans la puberté, ben, en fait, on rentre dans la période à l'adolescence. Ça peut être plus ou moins tôt en fonction des espèces, parce que la puberté va s'opérer plus tôt. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les rongeurs, ils ont des comportements qui sont très similaires des comportements adolescents. Hein. Ils se comportent différemment quand ils sont en groupe que quand ils sont seuls. Ils prennent plus de risques à cette période-là de la vie qu'à d'autres périodes de la vie. Ils sont dans une période d'exploration. Ils sont de moins en moins dans une recherche du lien d'attachement avec leur maman ou leur papa, si on peut dire ça pour les rongeurs. Et puis, progressivement, ils vont s'autonomiser. Mais ils ont vraiment des comportements très, très, très similaires à ce qu'on peut observer chez des adolescents.
Oui, mais il y a aussi une différence dans le genre, hein, c'est ça, entre garçons.
Selon
les filles ou les garçons, déjà, ce n'est pas le même âge.
Alors, ce n'est pas le même âge, parce que la puberté commence plutôt chez les filles que chez les garçons. Et puis, on a effectivement un développement qui est beaucoup plus rapide chez les filles que chez les garçons, mais parce qu'elles y rentrent plus tôt dans la puberté. Et donc, elles finissent leur maturation cérébrale un peu plus tôt que la maturation cérébrale des garçons.
Alors, vous êtes donc professeur de psychologie, du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, en fait, les neurosciences cognitives de l'éducation ? Qu'est-ce que c'est la psychologie du développement et de neurosciences ? Moi, j'ai compris avec Sébastien Boller, donc j'avais étudié un peu cette histoire, les neurosciences, c'est quand même récent. Et aujourd'hui, c'est grâce à l'imagerie cérébrale qu'on est capable de voir tout. On est capable de voir ce que fait la prière ou la méditation sur un cerveau. Mmh. On est capable d'observer le cerveau d'un adolescent. Donc, in vivo, c'est ça.
Exactement. C'est une révolution qui est... Bon, probablement aussi importante que l'apparition du microscope. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte. D'ailleurs, c'était intéressant parce que quand le microscope a émergé dans le champ scientifique, les gens disaient « Ouais, pff, ça sert à rien, on va foutre avec ce truc. Bah, » ça a complètement révolutionné la science. Bon, c'est à peu près la même chose avec l'IRM. Ça, tout le monde regarde, on dit « Ouais, bon. »
Ah, c'est l'IRM, donc.
L'imagerie par résonance magnétique, en fait. Et c'est intéressant parce que c'est une technique qui est non-invasive. C'est bien pour ça qu'on peut l'utiliser avec des enfants et des adolescents, c'est qu'il n'y a pas de rayonnement, il n'y a pas d'injection de substances ou quoi que ce soit.
J'en ai fait énormément ces derniers temps pour problèmes personnels, mais alors on doit d'abord s'injecter un liquide.
Alors,
c'est ça.
Pour vous, c'est le cas, parce que vous êtes dans le cadre d'une procédure médicale et qu'on va regarder, par exemple, la vascularité ou des choses comme ça.
Oui,
donc, on a besoin d'avoir un contraste plus important. Mais quand on fait de l'IRM, nous, avec des enfants et des adolescents, c'est bien, effectivement, sans injection, sans rien.
Ça fonctionne comment, donc, cette imagerie ?
Alors,
c'est hallucinant, le bruit que ça fait, déjà.
Oui, c'est
absolument
infernal,
incroyable.
En gros, c'est un énorme champ électromagnétique, alors qui est... pas suffisamment puissant pour avoir quelconque effet sur votre cerveau. Et donc, ce champ magnétique, en fait, il va réagir ou il va être modulé d'une certaine manière par l'oxygénation de votre sang. Et donc, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous allez utiliser beaucoup une région cérébrale, vous allez avoir un changement de l'oxygénation du sang. Et du fait de ce changement, vous allez pouvoir la capter, la transformation du signal. Donc, c'est toujours...
C'est ce qu'on voit sur l'imagerie, les zones rouges.
Ouais, les cartes d'activité, c'est toujours... Il faut bien en avoir conscience. C'est pour ça aussi que ça fait naître un peu des neuromythes. C'est-à-dire que la carte d'activité, c'est toujours le contraste entre deux situations. Parce que sinon, en fait, on mesurerait rien. On a vraiment besoin de regarder la fluctuation.
On dirait un peu des cartes de population.
C'est à peu près des cartes de population. Mais si, en fait, vous regardez le réseau du repos, c'est-à-dire que si vous demandez aux gens de s'allonger dans une IRM, de penser à rien, ce qui est toujours un peu complexe de penser à rien, et que vous regardez l'activité du cerveau, en fait, c'est une activité qui est quasiment continue. Alors, elle est oscillatoire, elle n'est pas toujours de la même intensité, mais globalement, notre cerveau, il fonctionne à peu près tout le temps. C'est un énorme réseau interconnecté, extrêmement interconnecté, qui fonctionne de façon avec une activité oscillatoire, mais quasiment continue. Donc, c'est vrai que parfois, on a un peu la faiblesse de croire qu'on n'utilise qu'une toute petite partie de son cerveau. En fait, non, c'est pas du tout vrai. On utilise quasiment tout le temps tout son cerveau. Alors, pas tout à fait avec la même puissance ou d'activité, mais c'est globalement...
Et on utilise toutes les zones, c'est ça que vous vouliez dire.
Ouais,
on n'utilise pas 2%.
Non, on n'utilise pas 5 ou 10% de son cerveau et ça sert à rien.
Mais évidemment, on n'utilise pas tout en même temps.
Non, on n'utilise pas tout en même temps et surtout pas avec la même intensité. C'est-à-dire qu'on a,
ou la
on
même
a
fréquence. Variables,
ou la même fréquence. Donc ça, c'est globalement la technique, on va dire. Et ensuite, ça nous permet, nous, de faire des hypothèses, notamment sur le lien entre l'émergence de certains processus de pensée et les activités qu'on peut observer dans le cerveau. Donc ça, c'est une première façon d'utiliser l'IRM. Une autre façon de regarder l'IRM, et c'est pour ça que c'est une neuroscience cognitive de l'éducation, c'est de regarder globalement comment le cerveau se transforme au cours des apprentissages. Et maintenant, on a aussi la capacité de faire cela. On peut regarder finalement, au cours de l'apprentissage de la lecture, au cours de l'apprentissage des mathématiques, comment le cerveau se transforme. Et c'est absolument faramineux ce qui se passe dans un cerveau humain, hein, quand il apprend à lire, par exemple. Si vous regardez deux cerveaux, un cerveau de lecteur et un cerveau non lecteur, même à l'âge adulte, les cerveaux sont organisés de façon totalement différente. Parce que quand vous apprenez à lire, vous apprenez à faire fonctionner des régions les unes avec les autres, que vous ne, par définition, vous n'allez pas apprendre à ces régions à fonctionner les unes avec les autres si vous n'avez pas appris à lire. Donc c'est transformant à chaque outil culturel. C'est-à-dire quand on apprend des mathématiques, quand on apprend à lire, quand on apprend à raisonner, quand on apprend finalement à faire de l'histoire-géographie, on transforme complètement son cerveau. Donc souvent, les profs disent un peu, enfin, on dit aux profs, ah, vous savez, ou les profs disent, d'ailleurs, j'ai laissé des traces dans le cerveau de mes élèves, mais c'est pas du tout figuré, hein. c'est réel, c'est-à-dire que c'est des vraies traces qu'on laisse dans le cerveau de l'enfant. Alors, il y a pas non plus de déterminisme, hein. Le cerveau il passe son temps à bouger.
La plasticité cérébrale.
Ouais, la plasticité cérébrale. Donc c'est
un peu... Si on se met à apprendre le piano aujourd'hui, on va développer, on va créer des circuits neuronaux tout nouveaux qu'on n'avait jamais eu, même à 80 ans, on peut découvrir ça.
Exactement.
Par contre, ce qui est assez fou aussi, j'imagine, que vous devez voir dans les cerveaux justement d'un lecteur et d'un non-lecteur, c'est les zones qui ont été développées chez le non-lecteur, c'est-à-dire tout ce qui est une logique différente. Un pragmatisme, le fait de devoir s'adapter, j'imagine, quand on n'arrive pas à lire quelque chose, on doit s'adapter et comprendre différemment.
Complètement. Et on voit bien qu'effectivement, les cerveaux sont structurés différemment du fait justement de l'acquisition de certains outils ou d'autres outils.
Ouais.
Mais il y a d'autres compétences qui ont été développées chez les cerveaux de non-lecteurs qui vont effectivement entraîner des modifications différentes dans d'autres régions.
C'est
avec l'idée évidemment que c'est pas à chaque fois que je vais acquérir une nouvelle compétence, mon cerveau va devenir plus gros.
Et
donc c'est évidemment
il y a un principe
d'homéostasie.
D'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre.
Ouais, d'équilibre.
Est-ce qu'on peut aussi perdre si on arrête de s'instruire, vous disiez que si on ne stimule pas son esprit critique, on le perd. C'est ce qui se passe avec les adolescents et Internet, le fait de pas vérifier les fake news, tout ça. On peut aussi modifier dans le mauvais sens notre cerveau.
Alors on peut effectivement en tout cas et on le voit bien d'ailleurs, hein, quand l'environnement devient suboptimal d'une certaine manière pour le développement cérébral, on a des effets sur la dynamique du développement du cerveau, et c'est vrai en fait très tôt, c'est-à-dire que si on prend des environnements extrêmes, c'est-à-dire par exemple la grande pauvreté, ou si vous regardez même des milieux sociaux moins favorisés par rapport à des milieux sociaux plus favorisés, vous pouvez observer que dès 4 mois après la naissance, les courbes de développement cérébral vont être différentes. Alors encore une fois, c'est pas déterministe, c'est à vous changer l'environnement, vous allez transformer effectivement ces courbes de développement, et vous pouvez complètement compenser pour un milieu social d'origine qui n'aurait pas été effectivement un milieu social d'origine optimal. Alors quand je dis milieu social d'origine optimal, ça veut pas dire que c'est votre CSP qui définit ce qui va se passer sur votre cerveau, c'est évidemment les caractéristiques de l'environnement dans lequel vous vous développez. Par exemple, c'est vrai que si je nais dans une famille qui est soumise à la très grande pauvreté, ma nutrition sera moins bonne, j'aurai plus de stress chronique parce que j'ai des risques de placement qui sont plus importants dans des familles d'accueil.
C'est extrêmement multifactoriel.
C'est
extrêmement
multifactoriel.
Mais
c'est simplement
d'origine quand même. Il n'y a pas un cerveau qui est. Tous les cerveaux sont uniques, on est d'accord. Parce que même visuellement, les plis du cerveau, il n'y a pas un cerveau qui se ressemble.
Tous les cerveaux sont différents. Ils sont quand même structurés à peu près de la même manière. Tout le monde a deux hémisphères, tout le monde a un cortex préfrontal, tout le monde a un cortex occipital là, juste derrière tout à l'arrière de votre tête. Tout ça y va.
C'est des parties aussi qui sont apparues au cours de l'évolution. Par exemple,
notamment le cortex préfrontal
qui
apparaît beaucoup plus tard, et il faut garder en tête aussi que très probablement nous sommes une espèce qui a développé une intelligence aussi complexe, notamment cette capacité à créer des outils culturels et les transmettre d'une génération à une autre, comme l'écriture ou les mathématiques, parce que notre cerveau se développe aussi longtemps. Il se développe 4 fois et demi plus longtemps que n'importe quelle autre espèce.
Oui.
Et évidemment, ça confère un avantage phylogénétique, c'est-à-dire du point de vue de l'histoire des espèces, notamment parce que effectivement, quand notre cerveau se développe, et notamment à l'adolescence, c'est des périodes dans lesquelles il est particulièrement plastique. Il est très sensible. Alors, il nous permet d'apprendre très vite, mais comme il est très sensible, et il y a un corollaire de ça, c'est qu'il est très vulnérable.
va rentrer dans le sujet qui nous intéresse quand même. À partir de quel âge est-ce qu'on peut percevoir un comportement addictif chez l'enfant? Est-ce qu'il y a des... Alors, j'ai vu dans votre livre qui est incroyable, vraiment, je le conseille aux parents, aux ados, aux éducateurs. Donc, c'est pas moi, c'est mon cerveau, aux éditions de Nathan, qui a été coécrit d'ailleurs avec Mathieu Cassotti. Et donc il y a des signes avant-coureurs, donc ça c'est complètement fou, c'est la résistance aux automatismes, et il y a deux autres choses, j'ai l'impression qu'on est d'accord que c'est en observant par imagerie, parce que c'est l'activité dans le réseau de la récompense, donc ça on le voit pas à l'œil nu, non. Et aussi le volume du lobe, ça non plus.
Non, alors...
Est-ce que d'avoir un front proéminent, ça a quelque chose...
Non, mais c'est alors une non, si vous avez un front proéminent, ça n'aura pas d'effet direct sur le fait que ça crée un facteur de risque ou non pour avoir des comportements de consommation excessive qui peuvent amener à de l'addiction. Pour autant, effectivement, et on le voit bien, c'est-à-dire que vous le disiez très bien en introduction, il y a quand même des caractéristiques qui... confère des vulnérabilités qui font qu'on peut avoir des comportements plus ou moins addictogènes, et notamment, effectivement, une difficulté à différer son plaisir immédiat. Et c'est vrai que c'est une caractéristique de tous les adolescents. C'est-à-dire que tous les adolescents sont beaucoup plus orientés vers les récompenses immédiates.
C'est à quel âge, avant l'adolescence, même puisque vous intéressez à l'enfant, à quel moment on peut discerner déjà? Est-ce que quand on parle d'une tétine, une sucette que l'enfant ne veut pas lâcher jusqu'à X années, est-ce que tout ça, c'est déjà de l'addiction?
Alors, c'est difficile de vous répondre parce qu'on a peu de données là-dessus. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir des données, pour vous répondre avec des données scientifiques, il faudrait qu'on fasse des très, 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 très grandes cohortes dans lesquelles, des cohortes, ça veut dire de suivre les mêmes individus dans le temps. Alors, il y en a un qui existe aujourd'hui en France, notamment une cohorte de l'INSERM qui s'appelle la cohorte ELF, qui suit des enfants depuis 2013, du jour de leur naissance, et puis on continue à les suivre aujourd'hui, donc ils ont 10 ans.
ELFE,
qui sort d'ailleurs plein de choses sur l'effet du numérique, sur le développement de l'enfant et ainsi de suite. Mais c'est vrai que pour pouvoir le faire, il faut pouvoir en fait mesurer un certain nombre de compétences des enfants quand ils sont très jeunes ou certains de leurs comportements et regarder ce que ça implique. Alors il y a quand même une étude qui suggère effectivement que la capacité à différer son plaisir immédiat pour obtenir une récompense différée, ça prédit quand même un certain nombre de comportements et de conduites à risque à l'adolescence.
Alors ça c'est une expérience simple. Le chamallow, par exemple.
C'est exactement, c'est la tâche du chamallow. Donc, c'est une. Alors, dans cette étude, ce n'était pas le test du chamallow exactement, mais le test du chamallow, globalement, c'est une étude observationnelle, mais dans laquelle on va en fait créer une situation particulière pour l'enfant. Donc, il faut imaginer des très jeunes enfants. À partir de 3 ans, on peut faire cette expérience. On lui donne un marshmallow et ou un chamallow et on lui dit tu peux le manger maintenant ou si tu attends, quand je reviens, je t'en donne un deuxième. Alors, il ne sait pas combien de temps ça dure. Et en fait, ce qu'on essaye de mesurer, c'est la capacité qu'a l'enfant à différer son plaisir immédiat. C'est manger le marshmallow, c'est top à 3 ans.
Moi, je veux voir surtout les caméras pendant le temps où l'enfant est avec le... Il le prend... Est-ce qu'il y a une hésitation?
Alors, il y a effectivement plein de mécanismes de régulation, justement, de ce plaisir immédiat, ou en tout cas d'arriver à différer son plaisir immédiat. Donc, il suffit d'aller sur YouTube, vous tapez des tests du marshmallow, il y en a plein des vidéos.
Très, très bien.
Ouais, et on a justement toutes les vidéos des enfants qui sont seuls dans la pièce et qui essaient justement de résister au fait d'aller manger ce marshmallow. Et donc, ce qu'ils essayent justement de faire, alors il y a plein de choses, ils essayent de ne pas regarder leur marshmallow, donc il y en a plein qui regardent ailleurs. Il y en a qui tapent sur la table, qui se bouchent les oreilles, qui essayent de se bloquer les yeux. Il y en a qui... Et puis on voit bien que progressivement dans le temps, c'est de plus en plus dur. Donc ils commencent à le sentir, puis ils le lèchent, et puis au bout d'un moment, ils finissent par le manger. Mais à 3 ans, vous avez quand même 2/3 des enfants qui attendent.
Alors, je suis assez stupéfaite par mon fils. Depuis qu'on est... Depuis qu'il est petit, on va au cinéma, on s'achète des paquets de bonbons, des pop-corn, des choses et tout, on se met dans la salle. Moi, je ne suis pas une ado, j'ai commencé mon paquet de bonbons. En général, j'ai fini de manger quand le film commence. Mon fils n'a rien touché. Donc c'est plutôt rassurant.
C'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'effectivement, il a cette capacité de contrôle de soi.
Et effectivement, il attend. Il a envie que son plaisir soit ultime, c'est-à-dire manger son paquet de pop-corn pendant le film.
Exactement.
Alors que moi, j'aimerais le faire, mais j'y arrive pas.
Il y a une énorme variabilité. Alors, ça ne veut pas dire, il faut quand même qu'on dise ça aux gens, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas inquiets. Pas parce que leurs enfants mangent tout de suite le paquet de bonbons qu'ils sont condamnés à être addicts ensuite ou à avoir des difficultés justement de gestion de leur comportement à l'adolescence. Mais c'est effectivement un facteur de risque. Il y en a plein d'autres.
Il y a une autre expérience qui est quand même assez folle. Et là, je me dis, j'espère que c'est quand même un raccourci, mais votre histoire de ni oui ni non, c'est très angoissant. J'ai hâte de le faire avec mon fils. C'est-à-dire, si votre enfant est assez mauvais à ni oui ni non, c'est-à-dire qu'il a du mal à réfréner les automatismes du oui et du non, il risque d'être dépendant à l'alcool.
encore une fois, il faut bien comprendre que c'est pas ce qu'on essaye de prédire.
Bien sûr.
C'est pas la trajectoire d'un individu. Hein. Il faut toujours bien comprendre ça dans nos études. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est plutôt la variabilité. C'est-à-dire en quoi des différences dans un domaine expliquent des différences dans un autre domaine. Mmh. Mais c'est pas dire, bon, si vous savez oui, pas jouer à ni oui ni non, vous êtes forcément condamné à être un consommateur d'alcool énorme. Mais il y a un lien parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'absolument critique, cette capacité, alors, résistance aux automatismes. En fait, c'est ce qu'on appelle l'inhibition, mais dans un sens positif du terme, c'est ma capacité finalement à sortir de mes routines, à ne pas être condamné finalement à être un être qui fait toujours la même chose, toujours de la même manière. Et ni oui ni non, c'est ça. Ni oui ni non, c'est quoi ?
Je pose et puis une addict, c'est quelqu'un qui fait toujours les mêmes choses. C'est des mauvaises habitudes, les addictions.
Exactement, c'est des mauvaises habitudes et c'est une difficulté à sortir de ces habitudes-là. C'est-à-dire que c'est ça qui définit pratiquement l'addiction. C'est à un moment, on a créé une espèce de routine qui, évidemment, avec un plaisir associé, et c'est à un moment d'avoir la capacité à sortir de cette routine. Et donc, ce que montrent ces études, alors c'est pas exactement sur le ni oui ni non, mais c'est sur des expériences qui mesure à peu près la même chose, c'est qu'effectivement, ça constitue un facteur de risque. C'est-à-dire que si j'ai moins de capacité à résister à ça, aussi parce qu'en fait, l'inhibition, c'est l'approche et l'évitement. Et c'est exactement ce qu'on a dans l'addiction. L'évitement, c'est précisément un moment de se dire, bon, ok, allez, je fais un pas de côté, je fais un pas en arrière et j'arrête finalement d'être toujours engagé avec cette substance si c'est une addiction à une substance spécifique.
Très bien. Alors, il y a deux angles de risque différents chez l'adolescent qu'il faut aborder. C'est hyper important. C'est une sorte de double peine, en fait, pour l'adolescent. C'est celui de tomber plus facilement parce qu'il est plus vulnérable, comme on l'a dit. Ouais. Mais aussi, et surtout, l'impact que vont avoir les comportements addictifs, et notamment les substances, sur son cerveau qui est encore en construction. Notamment, l'alcool et le cannabis, qui finalement ont les mêmes impacts alors qu'on ne se doute pas de ça.
Oui, c'est intéressant parce que souvent, on parle beaucoup d'ailleurs, hein, je veux dire, de la problématique du cannabis chez les jeunes. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Il y en a aussi sur l'alcool, mais finalement, c'est beaucoup plus accepté socialement. Hein. D'ailleurs, quand on fait des études, si vous demandez à des parents ou à des adolescents la dernière fois qu'ils ont bu, est-ce qu'ils étaient ou non dans leur structure familiale ou en interaction avec leurs parents, et vous avez 30% d'entre eux qui, 90 jours avant l'étude, vous disent « bah oui, j'ai bu avec mes parents ». Ce qui est dingue quand on y pense, parce que quand on voit ce que produit l'alcool sur le cerveau en développement, au même titre que le cannabis, hein, c'est effectivement des effets qui sont extrêmement importants, qui vont toucher les différents systèmes dont on a déjà parlé, hein, capacité à résister à la récompense immédiate, capacité à justement sortir de ses routines, inhiber ses automatismes, avoir de la capacité de traiter des informations, de les manipuler en mémoire et de les combiner entre elles. Tout ça va être affecté par la consommation de cannabis et d'alcool. Alors, quand on est relativement âgé, quand on est un vieil adolescent, une fois que la maturation est suffisamment engagée, on a des effets qui peuvent être réversibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir des effets, par exemple, du quotient intellectuel, mais si on arrête la consommation, on va avoir un retour à la normale progressive, de la même manière sur les structures du cerveau. On parlait de ces structures, avoir un lobe frontal plus ou moins développé, avoir un striatum plus ou moins développé. Globalement, ça se normalise à peu près. Quand on commence tôt, et c'est pour ça qu'il faut en parler avec les ados, quand on commence tôt, c'est-à-dire avant 16 ans, on a des effets qui sont non réversibles. On ne reviendra pas à la normale. Alors, ce n'est pas non plus des effets qui sont tellement massifs qu'il faut s'inquiéter outre mesure, parce que souvent, quand je dis ça dans une conférence, oui, je vois bien que la moitié à peu
les
près...
Les gens détestent l'irréversibilité.
Les adultes me regardent en disant « Mais comment j'étais, moi, quand j'étais ado, déjà ?»« Ah oui, mais moi, je buvais de la bière à partir de 14 ans, donc ça veut dire que je suis débile. » Non, c'est pas, je leur dis « Attendez, c'est
non,
pas
mais ça veut dire qu'il s'est passé des choses irréversibles, mais peut-être pas si grave. »
Voilà, qu'il s'est passé des choses irréversibles, ça joue sur quelques points de QI, ça joue sur ma capacité...
Oui, il y a le QI quand même.
Oui, ça joue aussi sur le quotient intellectuel, mais ça joue sur des capacités de justement d'avoir la capacité d'exercer un esprit critique, d'exercer...
Mais en fait, ce qui est fou, c'est que c'est la cause et la conséquence en même temps. C'est-à-dire, ils ont du mal à exercer leur esprit critique, ils vont du coup faire des choses à risque et ça va en plus accentuer leur mal à prendre des bonnes décisions.
Vous donc avez tout à fait raison, c'est un circuit quasiment qui se renforce.
C'est récursif, on dit, je crois.
Récursif, c'est un facteur de vulnérabilité. Mmh. Et quand on va rentrer dans la consommation excessive de ces substances, alors excessive, il faut bien avoir conscience, sur l'alcool et sur le cannabis, c'est même des toutes petites consommations, et notamment dans l'alcool, même une consommation minime d'alcool sur un cerveau très jeune. C'est pour ça qu'on essaye un peu de sensibiliser les parents en leur disant, attendez, il faut arrêter le coup de un petit fond de champagne. Non, non, c'est même pas un fond de champagne.
Et surtout, ça peut donner apparemment...
Et en plus, ça donne effectivement une certaine forme d'appétence pour le fait de boire, de boire un peu d'alcool, aussi parce que souvent, c'est dans un cadre social. C'est-à-dire qu'on boit de l'alcool... Alors, après, quand on a une addiction, on peut le boire seul. Mais dans un premier temps, c'est souvent dans
surtout
un cadre festif, dans un cadre social, pour des adolescents dont, finalement, le cerveau est très orienté pour des récompenses, mais pas n'importe quel type de récompense. Le cerveau adolescent, sa particularité, c'est que ce qu'il recherche, c'est des récompenses sociales. C'est-à-dire, il cherche un statut dans un groupe social d'appartenance. Donc, évidemment, le fait, si tous mes copains commencent à boire de l'alcool, si je veux faire partie du groupe, il va y avoir un phénomène d'influence sociale et je vais avoir tendance à consommer, moi aussi, de l'alcool, parce que ça me donne, d'une certaine manière, une assurance que je fais partie du groupe.
Bon, là, ça crée un lien immédiat vers justement les réseaux sociaux. Juste avant d'aborder ce thème-là et les écrans et les réseaux sociaux, juste quelques chiffres quand même. Moi, j'ai été assez choquée. À 17 ans, il y a 12% seulement qui n'ont jamais consommé d'alcool, de tabac ou de cannabis. Il y en a 7% qui en font un usage régulier. 44% ont déjà été fortement alcoolisés. 25%, 1 sur 4, fument. 3,4% ont déjà expérimenté la cocaïne et la MDMA. Et alors moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est 9% pour le purple drink. Donc ce truc à base d'opiacés, c'est un peu flippant, je trouve quand même. Donc c'est beaucoup.
Je pense que c'est beaucoup et que pour l'instant, nos campagnes de prévention ne marchent pas très bien. Elles ne marchent pas très bien parce que je pense que c'est des campagnes de prévention qui sont faites par des adultes et qui ne comprennent pas très bien comment fonctionnent les adolescents. Et que je pense que si on veut qu'aujourd'hui nos campagnes fonctionnent...
Elles doivent être faites par des adolescents.
Elles doivent, en tout cas, on doit associer les adolescents. C'est un peu ce qu'on essaye de dire, d'ailleurs, sur la prévention des écrans de ce que ça peut avoir comme effet délétère chez l'adolescent. C'est de dire, mais si on n'engage pas les adolescents dans cette réflexion, et ils ont plein d'idées, ils en ont plein, bah, finalement, d'une certaine manière, on va passer complètement à côté de notre cible. Et c'est intéressant quand on parle, par exemple, avec la MILDK, qui est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
Qui nous soutient.
Qui vous soutiennent. Ce qui montre, c'est que ce qui a le mieux marché en termes de prévention de l'alcool chez les jeunes, c'est « tu t'es vu quand t'as bu ». Et c'est intéressant. Pourquoi ça a marché « tu t'es vu quand t'as bu » ben parce qu'en fait, on est au cœur de ce que recherche un adolescent. C'est-à-dire que comme un adolescent, ça recherche un statut dans un groupe social d'appartenance, si évidemment j'ai l'air de ne rien quand j'ai bu et que quand je suis complètement bourré, tout le monde se fout de ma gueule, ben a priori, je vais avoir moins tendance à vouloir boire de l'alcool parce que ça peut avoir un effet sur la hiérarchie sociale, c'est-à-dire ma position dans mon groupe social d'appartenance. Donc c'est comme ça qu'il faut réussir à réfléchir. Et c'est difficile parce que, ben, d'une part, nous, on a toujours un rapport un peu complexe à notre adolescence. Et à nos adolescents. Et puis on est très critique vis-à-vis des adolescents. Moi, je suis quand même très frappé de voir à quel point on est critique.
Alors, certes, vous, quel regard bienveillant. Ça fait du bien, en fait. Moi, vous m'avez fait beaucoup de bien parce que c'est dans une période mère-fils déjà. Garde alternée, tellement de choses. En plus, moi, j'ai quand même eu une vie assez compliquée. Donc, il a subi des choses. Donc, vraiment, vous m'avez fait beaucoup de bien parce que j'ai envie de lui foutre la paix. J'ai envie de lui parler d'une façon qu'il peut comprendre. Et donc, ce livre, il s'adresse vraiment à des ados, parce que quand vous mettez par exemple des échanges de textos, on dirait vraiment des échanges d'ados. C'est pas genre on essaye de mimer. Il y a vraiment quelque chose comme ça sur la honte que je me suis pris hier. Enfin, c'est assez clair. Et je trouve vraiment que c'est sûr qu'en tout cas, l'adolescence, ce qu'il recherche, c'est la validation sociale.
Ouais, il recherche la validation sociale et il faut, je pense, avoir un point de vue bienveillant sur les ados. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est une population qui est vulnérable. Elle va pas très bien. En plus, post-Covid, c'est difficile pour eux. Il y en a 30 à 40% qui ont des difficultés psychologiques.
Est-ce que vous pensez que les ados... est-ce que, par exemple, vous avez des études là-dessus sur les cerveaux d'ados de la génération d'avant et ceux d'aujourd'hui ? Parce que est-ce que c'est vrai que par rapport à Internet, je dis Internet dans sa globalité, ils ont plus de mal à s'occuper, mais surtout à s'ennuyer ?
Alors, on n'a pas forcément suffisamment de recul pour regarder de génération à génération. Après, on commence à avoir des données, parce qu'il y a une grosse base de données qui est en train d'être créée aux États-Unis, qui justement va suivre 13 000 adolescents. Donc, ils ont commencé chez des enfants qui avaient 8 ans, puis ensuite, chaque année, à peu près, ils vont faire une imagerie de leur cerveau, des images de leur cerveau. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des jeux vidéo, l'utilisation de différents types de médias numériques, différents types de contenus, ont des effets sur le cerveau en développement. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas très bien dire si c'est positif ou négatif. Ça accélère clairement le développement cérébral. Mais comme toute autre activité intensive, hein, quand vous faites une activité intensive, que ce soit du sport, si vous lisez énormément, vous allez avoir une accélération de votre développement cérébral, parce qu'il y a des changements, des différences dans, dans l'environnement. Après, la vraie question, c'est est-ce que c'est positif ou négatif ? Et en fait, c'est complexe, parce que ça dépend fondamentalement de vos usages. Et notamment pendant la crise de la Covid, on peut avoir plein de griefs hein, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des problématiques de comparaison sociale qui peuvent être parfois délétères pour les adolescents, parce qu'on va se comparer toujours à des espèces de, comme ça, de standards, par exemple de la beauté. On sait que ça peut avoir des effets sur l'estime de soi de certaines jeunes filles, et ainsi de suite. Et en même temps, c'est quand même des réseaux de socialisation. Et par exemple, quand les établissements ont fermé, il est très probable que les réseaux sociaux et les messageries, type WhatsApp ou autre, aient plutôt eu des effets positifs. Parce que pour un adolescent, il n'y a rien de pire hein, que l'isolement social. C'est vraiment pour eux une souffrance qui s'apparente à des souffrances qu'on pourrait nous ressentir dans d'autres types de contextes. C'est quelque chose d'extrêmement puissant chez eux, le fait d'être isolé socialement. Et que ces réseaux, bah, ça permet d'une certaine manière de maintenir du lien social. Donc il faut toujours les prendre dans cette complexité-là, c'est ça la difficulté.
Et puis en plus, il y a aussi cet aspect positif de la libération un petit peu justement de l'image. Vous parliez de tout ça, enfin le fait de pouvoir être libre, d'être qui on veut être.
On a le droit de s'affirmer et on peut aussi être en contact avec une communauté qui n'était pas forcément une communauté visible.
On peut trouver sa propre communauté, on peut appartenir.
Exactement.
Et ça, peut-être que ça va empêcher d'aller se droguer dans le sens où souvent on va chercher la cigarette, l'alcool, la drogue parce qu'on veut appartenir à quelque chose.
Oui, parce qu'on veut appartenir à ce groupe social qui, pour autant, peut parfois nous rejeter parce qu'on n'est pas exactement conforme à la norme qui est la norme dominante à un moment donné. Et c'est vrai que sur la construction du genre, on voit bien que les normes sont en train d'évoluer extrêmement rapidement, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que finalement, tout le monde peut se retrouver, peut construire un genre qui peut être défini ou moins défini avec une variabilité extrêmement forte de ce point de vue-là. Chez des adolescents qui, précisément, sont en train de construire ça parce qu'ils construisent aussi leur genre, leur sexualité, leur rapport justement à leur corps, et que tout ça, les réseaux sociaux permettent aussi à des communautés de pouvoir se reconnaître entre elles et de donner à voir aussi, parce qu'avant c'était d'une certaine manière des communautés invisibles, elles n'étaient pas visibles dans l'espace public parce qu'elles étaient stigmatisées.
Bon, de toute façon, on n'a pas assez donc, de recul pour savoir si de toute façon l'impact, il est là, il est présent, mais est-ce qu'il est vraiment négatif. Donc déjà, c'est rassurant aussi de savoir ça. Mais c'est aussi en fonction donc, du contenu, mais de ce qu'on fait sur Internet. Parce que moi, un truc qui me pose moins problème, par exemple, c'est les jeux vidéo. Moi, je trouve que quand ils jouent en ligne, je les trouve super heureux. Enfin, j'aime beaucoup voir mon fils jouer en ligne, par exemple, sur Fortnite ou j'en sais rien. Mais en revanche, quand je le vois scroller, je trouve qu'il a les yeux vides. Voilà, comme nous, hein, attention. Hein.
Ouais.
Et y a aussi autre chose donc, dont j'aimerais parler, c'est les contenus à caractère pornographique et les contenus à caractère violent. Ouais. Quel est l'impact de ça sur un cerveau d'ado ?
Alors, il faut peut-être discerner les différents types de contenus, parce que on n'a pas exactement les mêmes effets. Alors, pour revenir sur les jeux vidéo, effectivement, sur les jeux vidéo, on a des effets, et qui sont des effets qui soit produisent pas grand-chose, soit parfois peuvent produire des effets positifs, et on a peu d'effets négatifs associés aux jeux vidéo. Sur les réseaux sociaux, il y a des effets qui sont soit nuls, parfois qui peuvent être un peu négatifs, mais c'est toujours des effets qui sont relativement faibles. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de panique morale aujourd'hui autour du numérique. Sur les adolescents, c'est un peu complexe parce que effectivement, quand on observe des effets, les effets sont relativement faibles, notamment quand vous contrôlez pour des facteurs qui sont extrêmement importants, du type milieu social d'origine, capital culturel, pratique parentale associée. En fait, tout ça, tout d'un coup, bah, les effets sont beaucoup moins prégnant et beaucoup moins clair, notamment pour ce qui concerne, et je vais moduler tout de suite, pour ce qui concerne le domaine cognitif et socio-émotionnel. Par contre, on sait qu'il y a deux domaines qui sont très touchés à l'adolescence, du fait de la consommation, enfin du temps d'écran en tant que tel, puisque j'aime pas beaucoup cette variable-là, mais celle-là, elle est pertinente dans ce cadre-là, c'est la qualité du sommeil et la sédentarité. Donc c'est ces
l'obésité.
Deux... Ouais, le fait de d'être inactif. Et on sait que c'est un vrai problème de santé publique parce que quand vous êtes inactif, vous avez des problématiques cardiovasculaires qui vont augmenter et ainsi de suite. Donc là, il y a un enjeu. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut deux choses. D'une part, un, essayer d'expliquer aux ados que certes, ils peuvent avoir des activités sur leur portable, sur leur tablette ou autre, mais que c'est pas mal d'arrêter d'utiliser, enfin c'est pas mal, c'est même au-delà de ça, il faudrait vraiment qu'ils arrêtent d'utiliser tout type d'écran au moins une heure avant d'aller se coucher, parce que sinon ça a des effets sur le décalage de leur pic de mélatonine, donc ils vont s'endormir moins bien, ils vont vont dormir
pas assez. De toute façon, ça, c'est décalé aujourd'hui le sommeil des ados. Hein. J'ai l'impression qu'ils se couchent de plus en plus tard, mais les pauvres, ouais, ils ont école à la même heure.
C'est ça. Alors, il y a de toute façon un décalage de phase à l'adolescence. C'est-à-dire que tout d'un coup, le sommeil va se décaler de 2 heures à l'adolescence. Et
pourquoi
donc
l'école n'adapte pas ça?
Ben ça, je pense que c'est une vraie question. C'est-à-dire que
c'est pas normal. Je veux dire, on les épuise. Ils sont déjà mous. Ouais.
Non, mais c'est pas normal parce que c'est une population vulnérable.
Mais c'est horrible, je trouve, de les vulnérabiliser plus.
Je suis d'accord. Je trouve que c'est absolument scandaleux que l'école ne prenne pas en compte les besoins physiologiques des adolescents. Alors certes, on me dira, ah oui, mais ça désorganise la société. Je m'en fous. Je veux dire, c'est eux la population vulnérable.
Mais oui, et puis c'est eux les adultes de demain, surtout.
C'est eux les adultes de demain. Et surtout, notre système éducatif passe son temps à se dire qu'est-ce que serait une mesure qui ne coûte pas grand-chose et qui produirait des effets assez importants. Bah, typiquement, on peut leur répondre. C'est typiquement de décaler de 2 heures, de 2 heures la première heure de cours. Parce que nos ados, ils sont tous, effectivement, en déficit chronique de sommeil. Ils ne dorment pas assez. Alors, on peut dire que c'est les écrans. Oui, certes, ça agit.
Mais c'est pas de leur faute non plus, les écrans, en fait,
ouais,
ils sont là.
Oui, oui. Et puis, c'est pas que les écrans. C'est effectivement l'horaire trop tôt de la première heure de cours. Donc, il faut essayer, effectivement, de faire ça. Donc, ça, c'était sur les deux choses qu'on peut voir, effectivement, et qu'on associe au temps d'écran. Ensuite, sur le contenu. Alors, première chose, sur la violence, c'est compliqué parce que, en fait, même jouer à des jeux vidéo d'action violents, ça n'a pas des effets sur la désensibilisation à la violence comme on l'a longtemps cru. Il y a un certain nombre de données maintenant qui sont assez consensuelles, qui montrent qu'effectivement, être exposé à du contenu violent, ça ne rend pas plus violent dans la vie quotidienne.
Il y en a même qui pense que d'extérioriser sa violence dans des jeux vidéo, c'est peut-être pas plus mal que de le faire sur des enfants à l'école.
Alors, il y a des effets juste après le jeu vidéo dans lequel on peut avoir des comportements un peu plus agressifs. Et en même temps, c'est toujours difficile parce que la question, c'est la question de la causalité. C'est est-ce que, parce que je suis un peu plus agressif, j'ai tendance à jouer plus à des jeux vidéo, notamment à des jeux vidéo d'action violent, parce que ça me donne peut-être aussi finalement un avantage, parce que la compétition, c'est aussi lié à l'agressivité, des choses comme ça, ou est-ce que c'est réellement l'utilisation du jeu vidéo en tant que tel qui produit ça? Donc ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, sur la problématique de la pornographie, là, c'est un peu plus complexe parce que, effectivement, on est face, je dirais, c'est pas tant ce que ça produit sur le cerveau, c'est aussi ce que ça produit sur les comportements ensuite sexuels et sur la construction de la sexualité. C'est-à-dire que effectivement, on est dans une situation complexe aujourd'hui parce que pourquoi les ados consomment d'une certaine manière de la pornographie?
Quels sont les chiffres déjà? J'ai lu un truc aberrant sur que notre enfant de. Lors de sa première relation sexuelle, il aura maté je ne sais pas combien d'heures de porno avant.
C'est extrêmement important. Ils sont quasiment tous, à un moment ou à un autre, exposés à du contenu pornographique. La difficulté, c'est vers qui ils peuvent se tourner pour parler de sexualité? Personne. En fait, il y a une étude qui montrait que, en fait, les parents n'ont pas très envie de parler de sexualité avec leurs ados. L'école, clairement, a démissionné de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a 3 séances sur la sexualité. Alors, elles sont optionnelles.
C'est plus la reproduction.
Donc, en fait, personne ne les fait.
Oui,
non, mais personne
ne
les fait. Je veux dire, il faut être très clair. Donc, en fait, ils font quoi? Ils sont effectivement dans une situation où ils vont chercher de l'information là où ils peuvent la trouver. Et donc, ils se retrouvent devant du contenu pornographique. Je ne parle pas des très jeunes enfants qui, tout d'un coup, parce qu'ils utilisent tel ou tel appareil numérique dans le foyer et qu'il n'y a pas de contrôle parental, qui, tout d'un coup, se retrouvent devant une vidéo porno, ou parce que le grand frère est en train de regarder une vidéo pornographique, le petit frère, tout d'un coup...
Là, on parle de ceux qui vont chercher vraiment l'info.
Voilà, là, on parle de ceux qui vont chercher l'info. Est-ce que ça crée des traumatismes? Non, mais par contre, ça crée effectivement des représentations erronées de ce que peut être la sexualité. Et donc, je crois qu'en fait, encore une fois, la question, elle n'est pas forcément uniquement la question de la régulation de ces contenus. Il faut réguler.
C'est pas du tout normal.
Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, il y a une loi qui oblige normalement ces plateformes justement, laissent à disposition...
Juste à mettre « oui, j'ai plus de 18 ans ».
Ouais, mais c'est un scandale. Et normalement, on doit avoir des systèmes. Maintenant, c'est une obligation. Il doit y avoir des systèmes de vérification de l'âge parce qu'il ne faut pas que les mineurs soient exposés à de la pornographie. Alors, ils le seront de toute façon un peu, faut être très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le cerveau adolescent, une des difficultés qu'il a, c'est d'avoir des mécanismes de régulation des émotions auxquelles il est exposé. Il a moins de mécanismes de régulation que le nôtre. Par exemple, il a une particularité, c'est que le cerveau adolescent s'habitue moins. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que placé dans la même situation, il va toujours réagir de la même manière. Alors que c'est pas du tout ce qui vous arrive. C'est-à-dire que, en gros, si vous allez 3 fois faire le podcast, à la 3e fois, vous avez beaucoup moins d'appréhension que la première fois où vous l'avez fait. Ça, c'est parce que votre cerveau, globalement, et notamment ce système limbique, va répondre un peu moins fortement parce que vous avez déjà appris que finalement, bon, ok, il n'y a pas trop péril dans la demeure de ce point de vue-là, j'ai pas besoin de déclencher tout mon système du stress. Ben, le cerveau adolescent, il ne marche pas comme ça. C'est un avantage parce que ça, ça fait qu'ils peuvent s'emparer de grandes causes. Et puis, ils ont un autre mécanisme de régulation émotionnelle qui fonctionne moins bien que chez l'adulte, c'est notre capacité à réévaluer, c'est-à-dire de se mettre à distance, de dire « Ok, bon, ben, ça, en fait, c'est un film, c'est une image violente dans un film, ou ça, c'est du contenu pornographique, donc je sais que globalement, ce n'est pas du tout la réalité, et ainsi de suite. Ben, » ça, ça marche moins bien chez eux. Donc, en fait, il y a une nécessité de pouvoir ouvrir, en tout cas, un espace de discussion avec les ados sur ces contenus-là. C'est-à-dire qu'à la rigueur, qu'ils soient exposés à des images non appropriées, je suis désolé de dire qu'a priori, ça sera toujours le cas. Et c'était le cas quand nous, on était ados et qu'on était face à la télévision et que tout d'un coup, il y avait des atrocités qui passaient au journal de 20h ou qu'on restait un peu trop longtemps connecté sur M6 et on tombait sur le film érotique. Bon, alors, le film érotique, on n'y voyait pas grand-chose. Mais je veux
franchement,
dire...
ça développait un goût pour le saxophone hyper c'est intéressant ça. Quand même.
Oui, oui, tout à fait.
Combien de gens aussi sont mis au saxophone après.
Grâce à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, l'enjeu, et c'est pour ça qu'il faut être bienveillant aussi avec les ados, c'est d'avoir un espace de discussion dans les familles, c'est-à-dire de pouvoir en parler et puis de ne pas avoir peur en tant que parent de parler de sexualité. Il faut parler de sexualité, on a besoin que ces ados puissent parler avec nous ou avec un adulte référent, peu importe. Mais je veux dire, il ne faut pas laisser ça d'une certaine manière non abordé avec eux parce que sinon, cas, ils vont chercher l'information ailleurs.
Et en tout cas, je me suis sentie un peu obligée, moi, en tout cas, de lui expliquer juste que ce qu'il allait voir, parce que je sais ce qui se passe, que ce n'était pas la réalité, que ce
Je pense que la réflexion qu'il faut avoir, c'est d'une part, un, de savoir un peu quelles sont les différentes activités qui sont les leurs sur les réseaux. Et pour pouvoir faire ça, il faut discuter avec eux de ce qu'ils font sur ces réseaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas être uniquement connecté à des réseaux et faire toujours la même chose parce que pour se développer, on a besoin d'avoir des activités différentes et que donc c'est peut-être cette discussion qu'il faut avoir avec les ados, c'est-à-dire de savoir un peu comment ils peuvent réguler leur propre temps d'écran. Et il faut qu'ils arrivent à réguler par eux-mêmes et il faut aussi qu'on soit suffisamment présent pour qu'ils aient la capacité de nous dire « là, j'y arrive plus ». Et il y a des ados qui nous disent ça. Ils disent « en fait, là, j'y arrive plus, j'ai besoin que quelqu'un, qu'un parent vienne m'aider sur la régulation de mon temps sur les réseaux. » Donc, ce n'est pas en soi de définir un temps absolu parce que personne n'en sait rien. Hein. Je veux dire, il n'y a pas pour vous dire « en dessous de 2 heures, c'est fantastique, au-dessus de 3 heures, c'est totalement terrible parce qu'en fait, ça dépend totalement des usages que vous en avez. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir fait 1 heure ou 2 heures de jeux vidéo que d'avoir fait 2 heures de scrolling infini sur les réseaux.
Mais là, on rentre dans le critère de l'addiction, justement, c'est-à-dire le fait de faire quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire. On sait que ça nous fait du mal, mais on peut pas s'en empêcher. Moi, je me rends vraiment compte que, justement, quand j'ai parlé à mon fils de ça, j'insiste là-dessus, je lui ai dit, est-ce que tu as l'impression de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais que tu peux pas t'empêcher de faire? Il me dit oui. Et donc, vraiment, c'est intéressant de leur demander quand même si, qu'ils viennent vous voir si ils sentent que, justement, ils ne peuvent pas s'empêcher d'eux.
Je pense que c'est un très bon critère. C'est-à-dire que voilà, est-ce qu'il y a du plaisir associé?
Oui, parce qu'il y a cette sorte capable... de plaisir et de bien-être aussi. Ouais, est-ce qu'il y a un bien-être numérique? Est-ce qu'on peut le mesurer?
Comme on peut le mesurer dans d'autres domaines. C'est-à-dire que généralement, on peut poser des questions, effectivement, exactement comme vous venez de le faire avec votre fille. On leur pose la question, mais tu te sens bien? Vraiment, quand tu es dessus, tu ressens un plaisir associé ou pas? Est-ce que tu arrives, effectivement, si on te demande d'arrêter, est-ce que tu vas réussir à gérer ça assez facilement ou plus difficilement? Après, je pense que la parentalité, elle est importante de ce point de vue-là, parce que effectivement, il faut adapter ces pratiques parentales. C'est-à-dire que c'est sûr que s'il joue à Fortnite, un round de Fortnite, c'est 20 minutes, il vaut mieux définir un temps en fonction du nombre de rounds auxquels ils peuvent jouer plutôt que le définir sur le temps. Parce que le risque, c'est d'arrêter au milieu de Fortnite et c'est horrible.
C'est
et très
fini.
Honnêtement, là, ce que je suggère aux parents, c'est de se mettre à la place de leurs ados. Imaginez qu'ils sont en train de regarder leur série, qu'ils sont en train de binge-watcher depuis...
Comme vous.
Voilà, exactement. Et qui, tout d'un coup, quelqu'un arriverait dans la chambre et éteindrait l'ordinateur. On deviendrait dingue. Bon, c'est exactement pareil pour les ados. Donc, il faut les respecter aussi là-dessus.
Et s'intéresser aussi, peut-être leur demander, c'est quoi à quoi tu joues, déjà
pourquoi
de montrer que ça nous intéresse quand même. Non, mais de savoir.
Et puis la dernière chose, c'est que si on veut les amener à réguler leur temps d'écran, si on veut amener à ce qu'ils puissent ouvrir un espace de discussion avec nous, il faut qu'ils puissent savoir ce qu'ils sont en train de traverser. Et force est de constater que les ados n'ont aucune connaissance de l'adolescence, de ce qui est en train de se passer. Ils n'ont aucune connaissance de leur cerveau. Ils doivent quand même traverser cette période, qui est une période difficile de la vie, sans aucune information.
Et donc, c'est pour ça que votre livre existe et c'est merveilleux. Et il va nous servir aussi à nous, parents, parce que cérébralement, on ne va pas en discuter aujourd'hui, mais il doit bien se passer quelque chose pour que nous, parents, sachions exactement qu'est-ce qu'on devrait faire, comment sont nos ados, d'avoir cette expérience, cette sagesse, cette expertise, et de continuer à agir souvent de façon délétère pour eux, c'est-à-dire de les accuser, de les culpabiliser ou de leur en vouloir d'être ce qu'ils sont. En tout cas, ce livre est parfait, je trouve, pour instaurer un respect entre adolescents et parents. Je pense qu'il peut aussi aider les éducateurs, parce que l'école, c'est aussi un autre sujet, je pense, qu'a un rôle à jouer là-dedans. Je conseille donc « C'est pas moi, c'est mon cerveau », parce que les addicts sont des ados en puissance, et les ados aussi, je crois, sont des addicts en puissance. Et c'était un plaisir de vous recevoir, Grégoire.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.